Bonjour à tous. D'abord, permettez-moi de vous donner les salutations de la part de l'Église de Montbéliard, qui pense quand même de temps en temps à vous. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est pas tellement un message sur la création. C'est-à-dire, si vous attendez des explications sur la création, comment Dieu a fait et tout ça, ce ne sera pas trop le thème de mon message, puisque mon thème, c'est plutôt les projets. Les projets que nous avons, que nous pouvons avoir dans notre vie personnelle. Et c'est une bonne chose d'avoir des projets dans notre vie personnelle, parce que ça nous stimule, ça nous aide. Vous pouvez avoir le projet, par exemple, de faire un voyage, de prendre des vacances, le projet d'apprendre un métier, le projet de gagner de l'argent, le projet de se marier, le projet de s'engager pour le service du Seigneur, ou peut-être, plus simplement, le projet de passer une bonne journée. Et dans votre église, vous avez aussi un projet, celui d'accueillir une famille de migrants. Christian m'a raconté les déboires que vous avez eus avec cette famille, si j'ose m'exprimer ainsi, ou les épisodes qui n'étaient pas tout à fait conformes à vos attentes, disons, au sujet de la famille que vous avez accueillie, mais le projet reste en cours et c'est bien. Et il y aura peut-être d'autres que j'ignore. Mais imaginez une église, imaginez votre église sans projet. Mais vous avez des projets, et c'est bien. Et vous avez le bonheur de travailler à leur réussite. Vous avez le bonheur de vous y investir et de les voir réussir. Parfois, ils réussissent. Souvent, ils réussissent. Alors, je vais vous dire que je ne suis pas venu vous donner des leçons sur les projets. Je ne suis pas venu de Montbéliard avec ma science. J'ai beaucoup à apprendre. Mais ce message est simplement quelques réflexions sur le sujet, sur les projets. Et je me suis posé deux questions essentielles. Qu'est-ce qu'un bon projet, soit dans l'Église, soit dans la vie personnelle? Et puis, surtout, comment mener un projet à sa réussite? Alors, suite à une lecture, je me suis tourné vers le récit de la création. Et puis, j'ai trouvé beaucoup d'indications, de conseils pour mener à bien un projet. Parce que la création, c'est un projet que Dieu a mené et qu'il a réussi. Alors, avant d'aller plus loin, je vais dire que j'ai beaucoup parlé de ce message avec mon épouse, qui ne m'a pas accompagné ce matin. Vous avez peut-être tous expérimenté que quand on a, pas un souci, mais quelque chose sur le cœur qui nous habite, quand on en parle avec quelqu'un, ça fait du bien, ça nous soulage, ça nous aide à discerner ce qui se passe, ça nous aide à voir comment les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Je pense que vous avez tous expérimenté un petit peu ça, sans parler des idées neuves qui peuvent apparaître. Et c'est ce que j'ai fait avec mon épouse au sujet de ce message. Elle m'a beaucoup encouragé, écouté, conseillé. Alors un bon projet, qu'est-ce que c'est ? Le récit de la création, justement, nous aide à répondre à cette question. C'était quoi le projet de Dieu, son aboutissement ? Le projet de Dieu, c'était la création de l'homme. Il a tout fait pour que l'homme soit bien, soit heureux. Vous allez dire, ce n'était pas tout à fait la création de l'homme, puisqu'après, il a encore créé la femme. Création de l'homme et de la femme. Mais je crois qu'il y a là une indication. Est-ce que notre projet a pour objectif de faire du bien à l'homme, à l'être humain en général, à des hommes, des êtres humains ? Alors, la réponse à cette question peut nous aider à voir si notre projet est bon. Parce qu'il y a aussi des projets qui sont mauvais. Dans Proverbe 1, versets 10 à 15, nous voyons un père qui conseille à son fils de ne pas s'associer à des mauvais garçons qui veulent tuer des innocents et prendre leurs biens. C'est facile de voir, dans ce cas-là, que ce genre de projet n'est pas bon. Mais parfois, nous n'arrivons pas à discerner si notre projet est bon ou mauvais. Et parfois, nous ne pouvons que dire, comme il est écrit dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 15, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. » En même temps, comment manager un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet d'équipe ? Alors, il y a des parallèles entre la création et le fait de mener, conduire, réaliser un projet. Vous voyez, la création, au début, il n'y a pas grand-chose. La terre était informe et vide. Premier jour, la lumière. Deuxième jour, le firmament, pour séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je suis incapable de vous le dire. Mais je reçois le texte comme inspiré. Troisième jour, les continents, les mers, les végétaux. Quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles. Cinquième jour, les bestioles des eaux et les oiseaux. Sixième jour, les animaux terrestres et l'homme. Et en ce qui concerne notre projet, encore une fois, que ce soit un projet personnel ou un projet collectif, un projet d'équipe, eh bien au début il n'y a rien. Au début. Le premier jour, la lumière de la création peut correspondre à l'étincelle initiale, la première idée du projet. Et puis, petit à petit, eh bien, il y a diverses étapes de notre projet qui se mettent en place jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le projet soit achevé. Vous voyez, le projet de Dieu dans la création s'est progressivement affiné, s'est fait progressivement jusqu'à la création de l'homme. Et nous, dans nos projets, c'est pareil, depuis l'idée initiale jusqu'à l'achèvement du projet. Eh bien, il y a différentes étapes. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour Dieu? Est-ce que Dieu avait tout préparé, ce qu'il allait faire chaque jour de la création avant de commencer? C'est-à-dire, avant de commencer, il a dit, le premier jour, je vais faire ça, le deuxième jour, ça, le troisième jour, ça, etc. Ou bien, est-ce que, après le premier jour, il a fait le bilan, il s'est gratté la tête et puis il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va séparer les eaux du dessus et des eaux du dessous. Avant de faire les continents, avant de faire les mers. Comment est-ce que ça s'est passé? On ne le sait pas, soyons honnêtes. Et alors, dans nos projets, nous avons en général un objectif, et pour l'atteindre, nous procédons par étapes. Nous faisons un pas après l'autre, et ce qui peut nous aider à faire le pas suivant, c'est de faire un bilan, de regarder le pas que nous venons de faire, d'essayer de comprendre et de voir comment nous pouvons faire le suivant. Vous avez remarqué, à la fin de chaque jour de la création, nous avons souvent cette phrase « Dieu vit que cela était bon ». Et pour être plus précis, voilà ce que nous avons. Pour le premier jour, la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. Pour le deuxième jour, le firmament, pour séparer les eaux, il n'y a pas de bilan. Troisième jour, par contre, on peut dire qu'il y a deux bilans. Les continents, les mers, Dieu vit que cela était bon. Les végétaux, Dieu vit que cela était bon. Quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles, Dieu vit que c'était bon. Cinquième jour, les bestioles des eaux et les oiseaux, Dieu vit que cela était bon. Sixième jour, les animaux terrestres, Dieu vit que cela était bon. Et puis, création de l'homme, homme et femme, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Donc on voit qu'à la fin de chaque jour, de la création, sauf le deuxième jour, Dieu fait le bilan, il voit ce qu'il a fait et il porte un jugement de valeur, c'est bon, et même à la fin, c'est même très bon. Et pour nos projets, il est nécessaire de faire de temps en temps un bilan. Pas forcément à la fin de chaque étape, vous voyez, pour le deuxième jour, là il n'y a pas eu de bilan. Et quant à nous, il nous faut nous poser des questions du genre « Qu'est-ce que nous avons fait ? Quels résultats avons-nous eu ? Est-ce que c'est ce que nous voulions ? Sinon, pour quelles raisons ? Comment est-ce que nous pouvons faire mieux ? » Parce qu'il y a quand même une grande différence entre Dieu et Dieu, c'est que Dieu fait les choses, il les fait bien du premier coup. Et puis nous sommes des êtres humains, nos actions sont entachées de notre humanité, bien imparfaite. Dans nos bilans d'étapes, il y a des bonnes choses, certainement, qu'il faut souligner. Il y a aussi des choses qui ont moins bien marché, et peut-être même qu'il y a des choses qui n'ont pas marché du tout, sans que nous soyons en faute forcément. Mais il faut en tenir compte avant de continuer. Ces choses donc peuvent nous aider à faire le pas suivant dans la réalisation de nos projets, de notre projet. Dans le cas d'un projet de mariage, il est bon parfois de s'arrêter et de faire un bilan. Qu'est-ce que nous vivons dans notre vie de couple? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons vivre? Sinon, comment nous pouvons améliorer la situation? Qu'est-ce que je dois, peux changer dans mes habitudes, ma manière d'être, pour que ça aille mieux? Il peut s'avérer utile que ce genre de bilan soit fait à l'aide d'un professionnel capable de conseiller et qui est d'ailleurs soumis au secret. Mais ça n'est pas obligatoire. Encore une fois, ça peut être utile, mais pas obligatoire. Alors, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il est souvent question dans la création de séparer et nommer. 5 fois, nous avons le verbe séparer tel quel, si vous voulez, et je vois l'action de séparer à chaque jour de la création. Et nous avons aussi 5 fois le verbe appeler ou nommer qui est employé. Alors, voyons ça un petit peu dans le détail, si vous voulez. Premier jour, création de la lumière. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je suis incapable de vous le dire. Et Dieu appelle la lumière jour, et Dieu appelle la ténèbre nuit. Deuxième jour, le firmament pour séparer les eaux. Et là, on a le verbe séparer 2 fois. Et le firmament, Dieu l'appelle ciel. Troisième jour, les continents, les mers. Il n'y a pas le verbe séparer, ni le mot séparation, mais c'est quand même une séparation de fait, la séparation des continents et de la mer. Le continent, Dieu l'appelle terre, la main des eaux, Dieu l'appelle mer. Et les végétaux, il n'est pas dit qu'il y a une action de séparer, mais les végétaux sont créés selon leur espèce. Et c'est là que je vois la séparation, dans les espèces. Ensuite, quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles. Séparation, encore une fois, du jour et de la nuit. Lumière et des ténèbres. Et là, nous avons 2 fois le verbe séparer. Cinquième jour, les bestioles des eaux et des oiseaux. Et les oiseaux, encore une fois, là, il n'y a pas le verbe séparer, mais il y a le fait des espèces. C'est une création selon l'espèce de ces bêtes-là. Et le sixième jour, les animaux terrestres, même chose, séparation au niveau des espèces. Là, on ne voit pas que Dieu les nomme, mais c'est Adam qui va les nommer un peu plus tard. Et création de l'homme et de la femme, si c'est une séparation des sexes. Voyez, dans la réalisation de son projet, Dieu a séparé et souvent nommé à chaque étape. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous fassions dans la réalisation de nos projets, de notre projet. Il est important à certains moments de séparer et parfois de nommer. Et c'est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Alors vous allez dire, mais si j'ai le projet de passer une bonne journée, à quel moment est-ce que je vais séparer? Si vous voulez passer une bonne journée, à un moment donné, il faudra dire non à certaines choses, à certaines tâches qui ne vous paraissent pas particulièrement agréables, peut-être faire les courses, peut-être faire le ménage, je ne sais pas. Si vous aimez faire les courses, au contraire, il faudra privilégier ça et séparer avec autre chose. Vous avez peut-être envie de voir du monde, envie de voir les magasins, ça peut très bien se comprendre, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, il y a des séparations qui vont devoir se faire. Alors, disons aussi que dans le fait de séparer, quand nous réalisons un projet, il n'y a pas forcément l'idée d'une séparation d'avec le mal. On ne sépare pas parce que l'une des parties est mauvaise. On sépare pour mieux maîtriser le projet. On sépare pour le mener à bien. Dans le récit de la création, chaque fois que Dieu sépare, il n'est jamais dit que c'est parce que l'une des deux parties est mauvaise. Vous allez dire, mais dans un monde où le mal, le péché n'existe pas encore, c'est un peu normal. Mais quand même, le premier jour, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dans le texte de la Genèse, il n'est pas dit que les ténèbres sont mauvaises. Mais dans le contexte global de la Bible, les ténèbres, c'est le symbole du mal, du péché. Dans de nombreux passages, vous pouvez voir ça. Mais par exemple, dans Romains 1, verset 21, Paul parle de gens qui n'ont pas voulu connaître Dieu et, je cite, qui se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors quand nous cherchons à réaliser un projet, il est souvent nécessaire de séparer, et parfois il est nécessaire de séparer le bien du mal. Un bel exemple, c'est le projet du mariage, pour lequel les deux types de séparation sont nécessaires pour le réussir. La première séparation que nous trouvons dès Genèse chapitre 2, mais elle est reprise, c'est le verset qui est repris dans le Nouveau Testament, qui est la séparation d'avec les parents. Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Ils deviendront tous deux un seul être. » Quitter, c'est très proche de séparer. Et si cette séparation, qui est une séparation surtout dans l'être intérieur, hein, si cette séparation n'a pas lieu pour les deux conjoints, homme et femme, eh bien, le mariage ne pourra pas s'épanouir. C'est l'ordre biblique. Cette séparation n'est pas nécessaire parce que les parents sont mauvais. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Une séparation nécessaire à ceux qui veulent se marier, de l'accepter. Et aux parents aussi d'accepter cette séparation, de laisser vivre leur vie de couple aux jeunes gens. Mais il y a un autre type de séparation qui est aussi absolument nécessaire pour réussir notre mariage. Vous savez, il ne faut, quand on est marié, même avant d'ailleurs, il ne faut pas convoiter quelqu'un d'autre que notre conjoint. Enfin, ça c'est quand on est marié. C'est le 10e commandement. Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, qui concerne les hommes, mais qui est aussi valable pour les dames. » Il s'agit là d'une séparation d'avec le mal, qui est absolument indispensable, d'avec le péché. Et là, non. Le mal, le péché, c'est la convoitise. Et si nous refusons cette séparation, eh bien le mariage ne pourra pas s'épanouir, et même, il va à la catastrophe. Dans beaucoup de projets où plusieurs personnes interviennent, la séparation peut se vivre dans le partage des tâches. Un tel s'occupe de telle partie du projet, quelqu'un d'autre s'occupe de telle autre partie, et ça fonctionne bien. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra changer la répartition des tâches. Et cela peut se faire naturellement lors d'un bilan. Alors le fait de nommer les choses est important aussi. Parce qu'en nommant les choses, elles perdent leur caractère inquiétant. En nommant les choses restent à la place qui leur revient. Nommer les choses permet de prendre un peu de recul, de voir la situation plus sereinement, d'une manière plus juste, et tout cela est extrêmement important. Bien nommer les choses, c'est ajouter au bonheur du monde. Nous trouvons ça dans la Bible, les récits fondateurs, sous la plume de Frédéric Boyer. Que va-t-il se passer si nous refusons de séparer, si nous refusons de nommer quand il le faut? C'est une bonne question. Hein, je suis en train de dire que c'est extrêmement important, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas? Si on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le courage ou parce que pour d'autres raisons. Alors revenons aux origines. Que se serait-il passé si Dieu n'avait pas séparé les espèces entre elles, par exemple? Ça veut dire qu'entre la vache, le cheval et la vache, eh bien, on aurait toutes sortes d'animaux intermédiaires. Entre la vache et le chameau, on aurait toutes sortes d'animaux intermédiaires. Peut-être qu'on aurait un animal qui donne du lait comme la vache, et comme un chameau qu'il faut nourrir une fois par semaine. Les paysans parmi nous savent que c'est une tâche répétitive, fourrager le bétail deux fois par jour, au moins il faut le faire absolument. Mais voilà, c'est pas comme ça que la situation que Dieu a créé le monde. S'il n'avait pas voulu la séparation des espèces, eh bien ce serait un beau désordre. Et le mot est lâché. C'est le mot désordre. La création de Genèse 1, la création de Dieu, peut être comprise comme un parcours du désordre, de l'informalisme, vers un monde ordonné, où tout fonctionne. Alors, l'ordre dont je parle ici, c'est pas l'ordre militaire qui fait marcher les choses à la baguette. C'est pas ça du tout. Il s'agit d'un ordre, au contraire, qui permet la vie, qui favorise la vie. D'un ordre qu'on peut voir dans le fonctionnement de la création. Et le psaume 104, vous avez un aperçu, tout le psaume est rempli de ça. C'est vraiment beau, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Le soleil sait quand il doit se lever et quand il doit se coucher. Les personnages, les jonquilles savent quand elles doivent fleurir. Alors si dans nos projets, il n'y a pas de séparation quand il le faut, on retourne, on fait un pas vers le chaos. Vers le chaos primitif. Imaginez un projet où les tâches sont mal définies, sont mal attribuées, où le processus de séparation n'a pas été mis en œuvre, où tout le monde fait tout en disant « On est tous frères, on est des convertis, on aime le Seigneur. » Pas de problème de ce côté. On peut tout faire, on va s'y mettre avec une énorme bonne volonté. Mais le résultat risque de ne pas être à la hauteur de l'attente et l'énorme bonne volonté initiale va fondre comme neige au soleil. Refuser de séparer et de nommer peut se traduire par un malaise ressenti par les personnes qui s'impliquent dans le projet. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Alors dans ce cas, la motivation diminue. Et à la fin, il semble. Je voudrais maintenant vous parler de trois vertus qui, à mon avis, renforcent le projet, qui sont indispensables pour la réussite d'un projet. Trois vertus et même quatre. Ces vertus, je vous le signale, ne sont mentionnées en tant que telles à aucun moment dans le récit de Genèse 1. Mais elles y sont présentes quand même. Et la première de ces vertus, c'est l'amour. Moi, je vois l'amour de Dieu chaque jour de la création. Vous allez dire, c'est pas évident. Bien sûr, c'est pas évident si vous lisez le récit comme ça. Mais si vous pensez qu'à la fin, il a fait tout ça pour l'homme, pour que l'homme soit bien, eh bien, ça change tout. Hein? Vous êtes obligé de dire, ben oui, Dieu est amour. Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a fait tout ça. Alors pour nous, si nous voulons voir réussir notre projet, il nous faut aussi beaucoup d'amour pour ceux qui vont en bénéficier. Et beaucoup d'amour dans notre manière de participer à ce projet, de le manager, de le mener à bien, si c'est nous qui le manageons. Mettons du cœur dans notre projet. Apprenons de Dieu comment il faut aimer, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Et s'il y a une seule chose que vous avez envie de retenir de ce message, alors retenez seulement ça. Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu m'aime. C'est vraiment extrêmement important et le diable a fait un énorme travail s'il arrive à vous persuader du contraire. Mais c'est faux. Dieu nous aime. La deuxième vertu, c'est la sagesse. Je la vois aussi à l'œuvre dans la création. Il a fallu beaucoup de sagesse à Dieu pour créer tout l'univers. D'ailleurs, il y a un verset dans le psaume 104 qui le dit. Pour créer l'univers tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Vous savez, les savants se penchent encore sur la création de Dieu. Ils essaient de comprendre comment ça s'est fait. Ils n'ont pas encore fini de chercher. Ils essaient de comprendre comment les choses se sont imbriquées les unes dans les autres, comment ça s'est fait. Et si vous êtes dans ce cas, si vous êtes un savant qui cherche à comprendre ce qui s'est fait lors de la création, vous ne perdez pas votre temps. C'est un travail extrêmement intéressant que nous n'avons pas le droit de condamner, mais que personnellement, que j'encouragerais plutôt. Mais voilà, nous sommes obligés de reconnaître que Dieu a fait toutes choses avec une sagesse extrême. Dans Proverbe 8, verset 23, la sagesse parle et dit... Donc c'est la sagesse qui parle. « J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. » Et un peu plus loin, donc Proverbe 8, versets 29 et 30, là, la sagesse parle de Dieu. « Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'ai été à ses côtés comme architecte. » Vous voyez ? Architecte. « Jour après jour, je faisais sa joie sans cesse en sa présence. » Voilà, la sagesse était à l'œuvre dans la création. Et dans nos projets, la sagesse nous est absolument nécessaire. Demandons-la au Seigneur qui nous la donne sans problème. Et la troisième vertu que je vois aussi dans le récit de la création, c'est la persévérance. C'est la vertu qui nous fait aller de l'avant, quoi qu'il arrive, qui nous empêche de nous décourager. Le mot persévérance ou le verbe persévérer n'est pas dans le premier chapitre de la Genèse, mais il y est mis en pratique, c'est beaucoup mieux encore. Dieu a persévéré dans son projet de création. Alors imaginons un instant qu'il n'ait pas persévéré et qu'il se soit arrêté au quatrième jour, par exemple. Il n'y aurait rien. Combien il est important de persévérer dans nos projets. Et le Proverbe 18, verset 9 dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Se relâcher dans son travail, c'est ne pas persévérer, c'est te dire « À quoi bon, ça ne sert à rien, baisser les bras. » Eh bien, c'est parce que nous voyons l'œuvre dans la création et c'est parce qu'il nous faut faire dans nos projets si nous voulons les voir réussir. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, ces trois vertus sont franchement des lignes de force qui renforcent et tiennent le projet. Comme trois fers à béton, reliés entre eux par des petites tiges de fer. Un ferraillage qui rend le béton beaucoup plus fort. Vous mettez le ferraillage dans un moule, vous coulez du béton, vous attendez que ça sèche quand même le temps qu'il faut. Après, vous essayez de le démolir avec un marteau-piqueur. Et bien, 20 cm plus haut que là où vous avez le marteau-piqueur, il n'y a rien qui bouge. C'est d'une solidité extrême. Un ferraillage qui rend le béton très fort. Et c'est ça qu'il nous faut pour nos projets. L'amour, la sagesse, la persévérance. Vous avez remarqué aussi les petites tiges qui relient ces trois fers à béton, dont le rôle est de maintenir un bon écartement entre les fers et donc de renforcer la construction. Alors ces petites tiges me font penser à la prière qui relie vraiment le tout et qui est aussi indispensable pour réussir un projet. Vous connaissez Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors, je n'ai encore rien dit sur comment avoir ces trois vertus. Alors, imaginez maintenant, un instant, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah, moi, je suis plein d'amour, ah, j'ai une sagesse extrême, ah, moi, j'ai la persévérance. » Je crois qu'il faudrait se sauver plus vite, sauf qu'il peut. Un proverbe qui dit « Celui qui est sage à ses propres yeux, c'est comme un insensé. » Non, comment avoir ces trois vertus? Eh bien, il faut déjà réaliser que ces vertus ne nous appartiennent pas. J'aime bien cette idée, que ces vertus ne nous appartiennent pas, mais que nous les empruntons à Dieu. C'est comme si Dieu mettait une petite partie de lui-même dans nos cœurs. Dieu qui nous prête ses vertus sans problème. Mais c'est pas vraiment les nôtres. Dans Jacques 1, il y a un verset qui dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donne sans problème. Oui, Dieu donne. Et c'est le lien que nous avons avec Dieu qui entretient, qui renforce amour, sagesse et persévérance dans nos cœurs. Alors voilà, je vais conclure maintenant. Dieu avait le projet de la création, mais il a aussi un projet avec chacun d'entre nous. Et quel est ce projet? Eh bien, ce projet est différent pour chacun d'entre nous. C'est à nous de le découvrir, d'y entrer, de le réaliser. Mais quand même, il y a des grandes lignes qui sont communes. Dans Romains 13, versets 11 à 14, nous lisons « Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. » Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans coucherie ni débauche, sans querelle ni jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors je dirais, voilà le projet que Dieu a pour nous. Il a des ambitions pour nous. Il refuse de nous laisser dans les ténèbres du péché. Il refuse de nous laisser là où nous sommes. Il nous dit, tu vaux mieux que ça. C'est pas toi, ça, de rester dans le péché, de rester dans les ténèbres. Tu vaux mieux que ça. Il nous appelle à vivre dans la lumière, à revêtir le Seigneur Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu pour nous, pour nos vies personnelles. Et si nous regardons un petit peu en arrière, si nous avons un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne, nous sommes obligés de constater que les trois vertus dont nous venons de parler, eh bien Dieu les a utilisées dans la réalisation de son projet pour nous. Si nous le voulons, il y a toujours un oui que nous devons donner. Dieu s'est comporté avec nous avec amour. Dieu s'est comporté avec nous avec sagesse. Dieu s'est comporté envers nous avec persévérance. Si Dieu n'avait pas persévéré dans son projet à mon égard, je ne serais pas devant vous ce matin, c'est certain. C'est ainsi qu'il se comporte avec chacun de nous. Rendons-lui gloire. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole. Et je vais voir un petit peu si vous avez retenu des choses. Alors, dans le fait de réaliser un projet, qu'est-ce que vous avez retenu ? Pardon ? La persévérance, oui, ça c'est tout à la fin, oui, on le verra.
Il faut le nommer.
Il faut le nommer, oui. Oui, ça c'est bien, oui, ensuite.
Séparer.
Séparer et nommer, oui. Très bien, très bien. Oh là là, vous avez été attentif, hein. Punaise, bravo. Alors, quoi encore?
Je ne soyez pas trop timide. Faire le bilan de temps en temps.
Comment?
Faire le bilan de temps en temps.
Faire le bilan de temps en temps, bien sûr, oui, oui. Et puis, vous dites, c'est pas tellement évident, des étapes. Hein, des étapes. Puis les trois vertus nécessaires, là, vous en rappelez, je viens d'en parler. Hein.
Elles sont écrites.
Elles sont compliquées.
Ah, voilà. Voilà, voilà. Parfait. Mais c'est bien. J'ai vu que vous avez été attentif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Seigneur notre Dieu, nous voulons encore nous tourner vers toi maintenant. Nous voulons te remercier pour ta parole qui est si riche. Nous te prions de nous aider à la vivre, à la mettre en pratique. Nous te prions de nous aider à réaliser le projet que tu as pour nous, de nous aider à rester dans la paix, dans la tranquillité. Tu tiens tout en ta main et nous te bénissons. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Je te les remets, chacun d'entre eux, dans ce qu'il doit vivre. Seigneur, veuille bénir chacun, encourager chacun. Et merci pour l'assemblée qui est ici, le lumignon qui fume, qui brûle, qui éclaire cette région des Vosges. Te bénissons, notre Dieu.